Limite.
Quelle est ta définition du réel?
C'est comme les maillons d'une chaîne.
Le point culminant de votre civilisation.
Préparez très fort, protéger ce qu'on aime.
Bravo, grand bienfaiteur de l'humanité.
On trouve en soi une force que l'on ne soupçonnait pas.
On ne peut pas résoudre un problème.
Exponential growth will take us to the limit.
Limite.
Very soon.
Avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème.
Nouveau talk sur Limite avec Marc-André Sellos, un biologiste et vulgarisateur français spécialisé en botanique et mycologie. Il a travaillé sur la symbiose, en particulier dans les domaines de l'évolution et de l'écologie. Je vous propose de faire un voyage direction les bactéries et les virus. Elles sont intrinsèquement liées, semble-t-il, à notre humeur, aux maladies émergentes. Tandis que le monde fait face à un effondrement de la biodiversité, et ben ça se passe également dans notre corps.
Limite.
Quelle est ta définition du réel?
Marc-André Sellos, bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Limite. Comment tu vas?
Bah ça va, et puis bah bienvenue au muséum.
Ah bah ouais, merci. Tu nous accueilles carrément dans ton bureau, ici même à Paris. Musée des sciences naturelles. C'est super grand, avec des jardins luxuriants. Enfin, je m'attendais pas à tomber sur un truc aussi beau. Vraiment, je suis super honoré que tu me reçois ici. Tu sais que j'ai parlé de toi... Attention, j'ai parlé de toi à beaucoup de personnes. Et il y en avait quelques-uns comme ça qui sont quand même des éminences dans certains domaines. Je donnerai pas les noms, tu les connais, je t'en ai parlé en dehors de la vidéo, qui estiment énormément ton travail. Et quand on s'était rencontrés à Univershifté à Nantes, effectivement, bah, je m'étais déjà informé, mais après j'ai recreusé tout ce qu'il y a derrière. Mais mec, mais tout ce que t'as réalisé,
bah je suis vieux, c'est tout.
Non mais alors, non, mais... je suis vieux, c'est tout.
C'est mon métier. Tu sais, il y a un truc qui est important, c'est que moi j'ai la chance. J'ai fait l'école normale supérieure, donc j'ai été payé pendant mes études, par les impôts des Français. Bon. Mmh. Ensuite, je suis devenu chercheur. Moi, j'ai la chance d'avoir une sorte de sécurité de l'emploi et d'avoir été payé pour accumuler des données, pour comprendre des choses. Et aujourd'hui, moi, mon devoir, c'est de raconter ça, et pas raconter ce que j'ai fait.
Voilà, ouais.
Mais oui, parce que aujourd'hui, ce qui est limitant, c'est pas la genèse des connaissances, c'est leur transfert dans la société, leur prise en main par les citoyens pour leur santé, pour l'industrie, pour l'environnement.
C'est pour ça notre avenir. Et ben, c'est pour ça que t'es là d'ailleurs sur cette chaîne qui s'appelle Limite. On est là pour parler des limites planétaires, les amis. Vous connaissez la chanson et la musique. Abonnez-vous, c'est important, s'il vous plaît. Non, mais vraiment, pourquoi je vous dis ça? Parce que on a remarqué que nos vidéos sont beaucoup suggérées et parfois vous faites pas le clic de l'abonnement et après vous en ratez quelques-unes derrière. Donc prenez ce réflexe, c'est important. Si vous voulez nous aider, je rappelle que nous sommes une plateforme indépendante qui est intégralement financée grâce à vous. N'hésitez pas, le Tipeee, le PayPal, faites-vous plaisir. Même 1 euro par mois, c'est champagne. On est content, enfin c'est champagne qui coûte pas cher forcément pour le coup, mais voilà, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à commenter tout le long de cette vidéo sur les choses que nous allons raconter et de la partager, ça va être important, parce qu'on va parler biodiversité, on va parler de ce qu'il y a dans le sol, de ce qu'il y a dans notre ventre aussi, et avant je voudrais démarrer déjà d'entrée de jeu avec cette vidéo pour que tu parles d'un événement qui va avoir lieu prochainement, c'est important de le dire déjà, puisqu'on va essayer de sortir cette vidéo quand même dans les temps, hein, pour que les gens puissent quand même en profiter. C'est du côté de Rouen, BioG. Est-ce que tu sais m'expliquer c'est quoi?
Alors BioG, c'est une association de sociétés scientifiques, d'académies, sciences, médecine, agriculture, le muséum. Tous ces interlocuteurs se sont réunis pour essayer de promouvoir l'explication du vivant dans la société, remettre ça au service des gens. Et là, à Rouen, avec la ville de Rouen, on organise 14-15 octobre un événement public et gratuit avec des conférences, des cafés scientifiques, des balades en ville sur microbiote, santé et environnement. On veut montrer aux gens que, en fait, les microbes qui nous entourent, c'est des outils pour être en meilleure santé, pour que notre environnement aille mieux. Alors, il y a des tas de gens connus, hein, Carsanti, Orsena, et tous ces gens-là vont parler un petit peu, de expliquer ce que les microbes peuvent faire pour nous en bien, parce que ce qu'ils font en mal, on le sait.
Ouais.
En fait, en bien, ils font plein de trucs.
Eh ben, on va creuser ça. Donc, à BioG, on vous met les infos en description. Dépêchez-vous, on sort vraiment la vidéo. Là, à mon avis, d'ici quelques jours, ça va se produire. Foncez-y. Marc-André, aujourd'hui, on est dans un monde, je vais pas redresser un tableau, où tout a été énormément artificialisé, on a dépassé énormément de limites dans tout. Toi, ton domaine d'expertise, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas entendu parler de toi, je sais qu'il y a un livre là qui est juste là, il faut le montrer, exactement, L'origine du monde, juste le nom, il met une punchline. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton sentiment face à ces limites, mais surtout tout ce que tu as pu aussi accomplir dans ta vie en creusant toutes ces questions-là en matière de biodiversité du vivant? Parce que tu as dit « je suis vieux », bon, je ne connais pas ton âge, ça va, tu tiens bien la route, mais connaître un petit peu tout ton domaine, tout ton champ d'expertise.
Moi, quand j'étais petit, j'étais passionné de champignons. Donc, je suis devenu mycologue, comme on dit. C'est-à-dire que moi, j'identifiais des champignons le week-end pendant que les autres faisaient du foot. Donc, ça m'a suivi toute mon enfance. Puis, au moment de devenir plus grand, j'ai commencé à étudier l'écologie des champignons. Et puis, le fait qu'au jour le jour, ces champignons, c'est des filaments souterrains ou dans les plantes, des filaments invisibles. C'est ça qui, de temps à autre, fait la partie que nous, on voit et qu'on ramasse. Mmh. Donc, en fait, en m'intéressant à leur mode de vie au jour le jour, je me suis retrouvé plongé dans le monde des microbes. Mmh. Et puis après, je me suis intéressé aux autres microbes, les bactéries, les amibes, tous ces trucs-là. Et moi, ce que je fais, c'est de comprendre comment fonctionnent les microbes du sol et comment, notamment, ils font le sol, ils permettent aux plantes de pousser. Alors, en fait, plus généralement, moi, quand je raconte des histoires de microbes, bah, j'essaie de montrer qu'au-delà du fait qu'ils font des maladies, ça on le sait bien hein, depuis Pasteur, on sait aussi, et d'ailleurs on le sait depuis Pasteur, mais ça on le dit moins, on sait aussi qu'ils font la santé. Aussi bien la santé des écosystèmes, le bon fonctionnement des écosystèmes, parce que c'est eux qui font tous les processus dans la nature, que la nôtre. Un exemple. Bon, toi et moi, on est fait de 10 000 milliards de cellules humaines.
10 000 milliards.
Oui, c'est beaucoup.
Actuellement ou durant toute notre vie?
Non, actuellement.
Actuellement, donc.
Juste là,
parce qu'on les renouvelle.
Non, mais tu les as toutes en face de toi. Alors tu les renouvelles, donc dans ta vie, tu en auras plus.
Ouais.
On a autant de cellules de microbes sur notre peau, dans notre nez, dans notre gorge, dans nos poumons,
non.
Et surtout dans le tube digestif. Alors ces cellules-là de bactéries, de levures, les levures c'est des champignons unicellulaires, hein,
ouais.
Elles sont plus petites que nos cellules. Donc au total, c'est 10 000 milliards de microbes, ça fait 1 kg, 1,5 kg. Tu vois, c'est pas énorme.
Non mais dans notre corps.
Dans notre corps,
si on enlevait tous les microbes, toutes les bactéries, en fait, on aurait un poids de 1 kg quoi.
Tu fais disparaître toutes tes cellules, pouf, mais il reste un petit tas de microbes qui fait 1,5 kg. C'est bien surtout en fait le contenu de ton tube digestif.
Oui, bien sûr.
C'est là. Mais pas que, hein, t'en as sur la peau et tout. Alors longtemps, moi, pendant mes études, on me disait, ouais, bah, c'est la microflore commensale. En gros, ça veut dire qu'elle habite là, elle se nourrit là, mais nous, ça nous fait rien. C'est pas vrai. On découvre maintenant qu'en fait, ça fait plein de choses et en fait, qu'il n'y a pas une seule de nos fonctions à nous qui ne soit en partie remplie par eux. Je te donne des exemples. La digestion, bah, la digestion des aliments, les microbes ils participent à attaquer les aliments, les couper en petits morceaux qui sont récupérables par eux d'ailleurs parfois et par nous. Ils nous aident à digérer. Ils émettent des molécules qui régulent nos fonctions, notamment qui régulent la mise en réserve. Genre par exemple, ça t'évite de faire trop de gras. Ils envoient des molécules qui te calment la faim. Ils participent à la sensation de satiété. Mais c'est pas tout. Comme ils sont là, ils occupent le terrain. Et puis en plus, ils ont intérêt à ce que ce terrain se développe bien, parce que c'est le gîte et le couvert pour eux, ta peau ou ton tube digestif. Mmh. Et ben, ils luttent contre les aliens qui essaient de t'attaquer. C'est un écran, par leur présence, à l'attaque de microbes indésirables. Par exemple, on est plus dans la population on est très nombreux, pratiquement 80%, à avoir des staphylocoques dorés sur la peau.
Ouais.
Mais on n'en sera pas malade, parce qu'il y a d'autres microbes qui les empêchent de se développer, alors ils sont là, mais ils ne prolifèrent pas. Et donc, c'est une sorte d'écran. Mais c'est pas tout. Ils émettent des molécules qui régulent le fonctionnement de ton système immunitaire, qui le rendent plus efficace. D'ailleurs, par exemple, la cicatrisation, ça implique les cellules de ton système immunitaire. Tu cicatrises moins vite si t'as pas de bactéries sur la peau. Alors, l'expérience a été faite sur des souris. Mmh. Mais aujourd'hui, en milieu hospitalier, on ne nettoie plus les plaies.
Sauf alors qu'avant, c'était... Oui, donc bien sûr.
Parce que ça cicatrise plus vite. Mais c'est pas tout. Il y a aussi des molécules qui sont émises qui régulent, tiens-toi bien, ton humeur et le développement de ton système nerveux quand tu es un enfant.
Alors ça, il faut que tu m'expliques en détail. J'ai souvent entendu effectivement parler que notre deuxième cerveau, c'est l'estomac, et que ce qui s'y passe, en fait, dans notre tube digestif, va réguler notre humeur. Parce que tu as dit quand on est enfant, mais alors, donne-moi des détails là.
Je vais te donner des détails parce qu'en fait, on connaît surtout ça parce qu'il marche pas.
Voilà, mais voilà, voilà.
Mais quand on dit que le cerveau, l'intestin est un second cerveau, on dit jamais que le cerveau est un second intestin, donc c'est un peu du n'importe quoi. Mais ce que ça veut dire, c'est que dans l'intestin, c'est le plus gros attroupement de neurones après le cerveau. Et ces neurones sont connectés effectivement au cerveau et à la moelle épinière. Mmh. Et ces neurones qui sont dans l'intestin, ils peuvent recueillir des messages venus du microbiote. On sait par exemple que certaines bactéries provoque des états dépressifs. Alors, ça ne suffit pas d'avoir la bactérie pour avoir la dépression. C'est toujours multicausal.
Oui, il y a un environnement, il y a tout, il y a plein de choses, d'accord, bien sûr.
Mais à Caperton, au Canada, il y a une grosse inondation, les gens ont bu de l'eau contaminée. Et puis, parce que les secours ne sont pas venus assez vite avec de l'eau propre. Et ensuite, il y a eu des épidémies de dépression incroyables qui ne correspondaient pas à ce qu'avaient vécu les gens. Et on pense que c'est des campylobactères qui les avaient contaminés et qui avaient induit des états dépressifs, c'est ça d'entre eux. À l'inverse, tu as des microbes, comme des lactobacilles, par exemple, ceux qu'on trouve dans le yaourt, qui jouent favorablement sur l'humeur. Alors, ça, tu vas pas être très joyeux tout de suite, mais tu as une plus grande résistance au stress. Il y a des tests psychologiques qui ont été faits, hein, on donne ces bactéries à des gens, on leur donne pas, et puis on s'aperçoit que ben, ils stressent moins dans une situation stressante. Tu leur montres un bébé en train de se faire égorger, ben, ceux qui ont pris, qui ont rien pris, ils disent c'est horrible, ils notent ça 10 sur 10 dans l'horreur, ceux qui ont pris ces trucs-là, ils disent ah ouais c'est pas terrible, ils te mettent 9 sur 10 dans le degré de l'horreur. Et donc, et on voit très bien d'ailleurs quand on fait des électroencéphalogrammes et que l'activité cérébrale n'est pas la même. Donc, en fait, leurs produits, leurs sécrétions, les molécules qu'ils émettent se mêlent de tout. Et nous, on est adapté à ça parce que depuis que l'homme est homme, ça fait partie du fonctionnement ordinaire.
De toutes les espèces vivantes, en fait. Et bon, ça
a complètement été négligé. Il y a ça chez les chiens, il y a ça chez les girafes, c'est bien. Mais alors, là où on découvre ces rôles en creux, c'est quand ça ne marche plus. Nous, on vit en Occident, dans un monde très propre. Ça nous évite.
Tout est aseptisé, complètement.
Les surfaces, les aliments, tout est cuit. Toi, tu te savonnes tout le temps.
Ouais, les antibiotiques dans la nourriture.
Des émulsifiants.
Ça fait quoi?
Des conservateurs.
Ces
molécules-là sont toxiques pour certains microbes.
Oui, c'est ce qui permet de conserver en fait, tout ça le plus longtemps possible.
Les émulsifiants, c'est ce qui permet de faire la structure des aliments industriels.
Ouais.
Tu vois? Et bien, ça, tes microbes, on appelle ça le microbiote, l'ensemble de ces microbes. Ils appartiennent quand même, hein, pour un induit comme moi, à 5-6 000 espèces. C'est énorme. Hein.
Ouais.
Et ben, y a des espèces qui ne supportent pas la lécithine de soja. T'en as d'autres qui est un émulsifiant. T'en as d'autres qui ne supportent pas les édulcorants, comme l'aspartame. Mmh. Donc, il y a des morts. Et on découvre aujourd'hui que l'une des causes des maladies émergentes, je vais te dire lesquelles, c'est une réduction de la quantité de microbes. Alors, ces maladies émergentes, c'est celle du métabolisme, diabète, obésité. En fait, quand tu as moins de microbes, quand tu as moins d'espèces, tu commences à plus avoir celles qui régulaient le fonctionnement la mise en réserve.
Garde bien là où tu es. Ça veut dire qu'on mange de la nourriture aujourd'hui ultra-industrialisée, d'une qualité mais effroyable, avec des nutriments mais à râler pâquerettes, parce qu'il faut produire massivement et que ça fait, voilà, ça nourrit tout un système économique. Et donc nous, on mange ça. Et donc à la fois, on stocke de la graisse parce qu'il y a beaucoup de graisse, beaucoup de sucre là-dedans, voilà. Et en même temps, on a tellement aseptisé le truc que c'est comme si, en fait, on augmentait le risque, mais on augmentait en plus de ça le risque. Parce qu'il y avait,
bousille la régulation.
C'est ça, mais c'est, en fait, on se bousille de plein de façons, c'est dingue.
Ouais. Non, mais alors, donc, le truc, c'est qu'effectivement, il y a des bactéries qui permettent de moins de pouvoir espérer réduire les symptômes d'obésité. Bien sûr, ça explique pas tout. Tu as aussi des causes génétiques,
ouais.
On n'est pas tous pareils, et puis il y a la façon dont tu manges qui joue. Mais voilà, donc les maladies du métabolisme, diabète, obésité, sont liées à une réduction de la diversité microbienne. De même, on retrouve ce phénomène de réduction de diversité microbienne chez les gens qui ont des problèmes avec leur système immunitaire, asthme, allergie.
Ouais.
Dans le cas de l'asthme, les bactéries pulmonaires sont moins diversifiées.
Et c'est dû à quoi ça?
Alors, on rentre là-dedans parce que justement on n'est plus assez contaminé, parce qu'on prend des produits qui abîment ces microbes. Et puis à la fin, donc, ils ont plus de mal à arriver à nous parce que notre environnement est clean.
Ouais.
Et puis, ils se prennent des baffes dans la gueule parce que tu te pulvérises un truc, parce que tu as une... Tu as de la toux, donc tu prends un pchit, et le pchit, il détruit. Et donc, si tu veux, tout le monde ne devient pas asthmatique. Mais chez certains, ça fait basculer la composition de ce microbiote vers des choses qui favorisent la maladie, qui sont un des facteurs de la maladie. Mais c'est pas tout. Là, je te parle de maladies du système immunitaire. Mais il y a aussi les maladies ou les désordres du système nerveux. Les symptômes d'autisme, le Parkinson, l'Alzheimer.
Alzheimer aussi?
Ouais, c'est des trucs qui sont liés à des microbiotes qui sont pas standards et souvent moins divers. Alors on sait que ça pourrait être une conséquence. Hein.
Oui, bien sûr.
Mais non, c'est pas une conséquence parce que quand tu donnes ça à des souris, quand tu donnes un microbiote intestinal expérimentalement à une souris qui a pas de bactéries, que tu as élevé sans bactéries, tu donnes un microbiote de quelqu'un qui est obèse ou quelqu'un qui a des ordres autistiques, et ben ta souris elle se met soit à grossir, soit à communiquer moins avec les autres. Et d'ailleurs, on a, pour toutes les maladies que j'ai citées, toutes, on a au moins une expérience en milieu hospitalier où on a donné des bactéries de quelqu'un qui n'est pas malade à quelqu'un qui a les symptômes. Et on a vu réduire les symptômes.
Mais on doit faire des cultures de bactéries et les mauvaises.
En fait, on leur donne des capsules de merde, hein, c'est ça. On leur donne un antibiotique qui nettoie le tube digestif et on leur donne une capsule avec le conduit du tube digestif de quelqu'un d'autre.
D'accord.
Et la capsule se délite dans l'intestin et le délivre.
Qui se reproduisent et qui vivent dedans.
Elles colonisent et les symptômes se réduisent. Alors, un, c'est pas total, et puis deux, ils reviennent. Pourquoi ? Parce que quand tu regardes bien, petit à petit, tu rebascules vers la composition anormale.
Adieu à quoi ?
Bah, parce qu'en fait, il y a d'autres facteurs. Et ces facteurs-là, ils influent sur ce qui colonise, et tu reviens à la composition normale, et peu de temps après, les symptômes reviennent. Mais après, c'est-à-dire qu'après la période où il y a eu une accalmie, les symptômes reviennent, mais à la suite du changement de microbiote qui retourne à l'état maladif lui-même. Tu vois le truc ? Mais donc ça veut dire que dans l'ordre, c'est le microbiote qui redérive et les symptômes qui reviennent. C'est une des causes. Donc mais aujourd'hui...
Donc ça, il y a des études.
Ah oui.
La recherche et tous les projets de recherche ont démontré qu'il y a un impact certain et clair là-dessus.
J'aurais dû t'amener un autre bouquin que j'ai écrit qui s'appelle « Jamais seul », qui raconte qu'on est toujours accompagné de microbes et où je décris tout ça. Alors si tu veux, ça veut dire qu'aujourd'hui, un des endroits où la disparition de la biodiversité nous abîme le plus, c'est en nous, c'est dans nous. Parce que finalement, à retirer des espèces, parce qu'on savonne trop la peau, hein, l'eczéma c'est souvent lié à un microbiote qui, de la peau qui ne fonctionne plus bien, des savons, des aliments qui ne conviennent pas, on finit par avoir réduit la diversité et donc il manque certaines fonctions qui nous accompagnaient. Et chez certains d'entre nous, ça développe ces grandes maladies de la modernité, du métabolisme, du système immunitaire et du système nerveux. C'est fort parce que demain, toutes ces maladies que j'ai citées là, et pour lesquelles on sait que le microbiote est une des causes, pas la cause, mais une des causes, c'est un Européen sur quatre qui en sera affecté. C'est une vraie épidémie, ces maladies de la modernité. Elles ne cessent d'augmenter. L'autisme, par exemple, les désordres autistiques, s'est multiplié par 3 en 10 ans. Et le taux de multiplication, c'est une exponentielle. En États-Unis, c'est un enfant sur 88.
Donc, c'est-à-dire que c'est toutes ces maladies, qui, moi je me suis toujours dit que ça a toujours existé dans l'histoire de l'humanité, forcément, il y a toujours eu des... Bien voilà, mais sauf qu'aujourd'hui, on arrive à montrer que dans notre époque moderne, avec autant, on n'a jamais été aussi nombreux, le nombre est exponentiel et croissant, dû à
entre autres.
Entre autres, oui, c'est plein de facteurs.
Une diversité microbienne en nous. Ouais, une diversité insuffisante. Et ça, si tu veux, on peut comparer la diversité, par exemple, du tube digestif des Occidentaux à celui de gens qui vivent en Amazonie.
Par exemple.
Il y a 1,5 à 3 fois moins d'espèces.
Waouh !
Quand on compare notre plaque dentaire à des plaques dentaires fossiles qu'on retrouve, alors là, parce qu'elles sont grosses, ils ne se brossaient pas les dents, hein, sur des gens il y a 8-10 000 ans, on va dire, on s'aperçoit que c'est pareil, on a ce facteur 1,5 à 3 fois moins de diversité dans notre plaque dentaire. Et de même, quand on étudie, ça a été fait en Amérique du Nord, quand on compare les crottes des Américains avec les crottes fossiles il y a 10 000 ans, on s'aperçoit que c'est le même facteur. Donc vraiment, 1,5 à 3 fois moins de diversité. Donc c'est un des endroits où la biodiversité nous affecte le plus, et ce qui est incroyable, c'est que ça affecte plein de paramètres. Tiens, revenons sur l'autisme. Il y a des gamins à qui on a donné pendant 8 semaines... On a transféré le contenu fécal de leurs parents. On leur fait ce qu'on appelle un transfert fécal. Alors attention, ça ne se fait pas à la maison. Hein. C'est sur un lieu hospitalier.
D'accord.
Il y a déjà eu 2 morts d'ailleurs. Parce que quand tu transfères les bactéries de quelqu'un à quelqu'un d'autre, tu peux transmettre une bactérie pathogène et ça peut se passer très mal. Donc, pas à la maison. Hein. Ok ? Mais je dis ça parce qu'il y a
des gens...
Non, mais il y a des gens qui sont venus me voir après des confs. J'ai essayé, je me sens mieux. Bon, non.
Wow, mollo, les gars.
Je mange pas ces crottes.
Voilà.
Mais ces gamins... 8 semaines de traitement, pendant 18 semaines, c'est-à-dire 10 semaines après le traitement encore, ils ont eu des améliorations de leurs symptômes. Et comme les symptômes d'autisme, c'est un problème de développement, le système nerveux ne se développe pas tout à fait pareil. Comme là, pendant quelques temps, on a remis le développement sur le bon chemin, on s'est aperçu que cette amélioration, parce que d'habitude, c'est labile, ça passe. Mais là, comme c'est du développement dont il s'agit, en fait, ça dure. Et on s'est aperçu que 2 ans après, enfin, ça a été étudié, c'est pas aperçu par hasard. Hein. 2 ans après, ils ont toujours une amélioration significative de leurs paramètres comportementaux. C'est énorme. Hein. Alors, demain, ce qu'il va falloir, c'est arriver à extraire quelles bactéries font quoi, voire même quelles molécules elles émettent,
qui
régulent.
Quelles interactions.
On va pas manger du caca, hein. c'est pas l'idée.
Oui, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Voilà. Si vous y avez pensé, avouez-le en commentaire. Mais ne le faites pas.
Je suis sûr qu'il y en a. Et ça existait dans la médecine chinoise ancienne.
Hein. Ah ouais.
Ça s'appelait la soupe dorée.
Tiens, c'est le mot, pas le mot. D'accord. Mais justement.
Donc.
Vas-y. Excuse-moi, tu veux continuer sur un truc parce que moi, je voulais le lancer par rapport à ça. On dit souvent, on est ce qu'on mange. Qu'est-ce qui a fait, c'est quoi, ok, les antibiotiques qu'on a mis dans notre nourriture, qu'on prend au quotidien dès qu'on a une petite maladie, etc., qui a drastiquement diminué. C'est drôle parce que j'ai l'impression que ce qu'on a fait sur notre corps, on l'a fait avec les sols aussi. On va y venir. On pourrait faire un parallèle très certain. Moi, il y a une question que j'ai toujours voulu savoir. Quand on me prescrit des antibiotiques parce que j'ai une bactérie ou parfois en prévention, j'hésite toujours à les prendre parce que je me dis, oulala, qu'est-ce qui se passera le jour où j'ai 70 balais? Qu'on produit moins d'antibiotiques potentiellement, j'en sais rien, et que je me retrouve dans une situation où il y a eu des résistances qui ont été faites par certains machins. Je suis l'avis du médecin, il n'y a pas de problème. Mais ce qui se passe souvent, c'est que je me suis posé cette question. Je suis pas en train de dire ne prenez pas d'antibiotiques, bien au contraire. De me dire, mais attends, mais est-ce que les antibiotiques n'attaquent que ce que j'ai envie de balancer qui est relou, ou ça attaque tout? Parce que quand je prends des antibiotiques, je ne sais pas si c'est dans ma tête ou pas, je ne veux pas venir avec ce biais de perception, vraiment pas, mais je me sens très raplapla, très fatigué, très démoralisé. Et je me dis, non, c'est sans doute pas ça, je dois avoir à lire des études, j'ai pas envie de... Voilà, de nouveau, mon opinion n'est pas une vérité scientifique, s'il vous plaît. Mais ça attaque les bactéries qui n'ont rien demandé aussi là-dedans ou pas?
Ah ben oui, l'intérêt des antibiotiques, c'est que tu n'as pas à savoir quelles bactéries te rend malade, l'antibiotique, comme il tue tout, il va tuer n'importe quelle bactérie.
Mais c'est effroyable alors.
Donc c'est leur efficacité. Après, le truc, c'est qu'il y a des fois où tu n'as pas le choix, il faut prendre.
Bien sûr.
Mais il faut le prendre le minimum de fois. Et très souvent, il y a des médecins qui prescrivent un peu pour, au cas où, pour se garder et pour te garder. Et ça, c'est pas génial. Il faut vraiment former les médecins à prescrire au minimum des antibiotiques, parce que c'est vrai que des fois on en a besoin, mais c'est pas bon du tout pour notre microbiote, ça c'est clair. Et c'est une des choses qui affaiblit notre microbiote. Mais je voudrais te dire quelque chose, c'est que tu penses évidemment à ces antibiotiques que tu prends des fois, mais revenons à ce qu'on disait tout à l'heure. Le nombre de fois où il y a des émulsifiants, ou des édulcorants, ou des conservateurs dans des plats que tu manges, ça c'est pas bon non plus pour ton microbiote. Et puis, il y a aussi le côté positif, qui va peut-être te donner des perspectives pour entretenir ton microbiote. Les perspectives positives, c'est de nourrir ton microbiote.
Alors comment
ça fonctionne? C'est les fibres. En France, on a eu ce truc, cette pub à 5 fruits et 5 légumes par jour.
Ouais.
Hein? Bon, en fait, il y a des fibres dans les légumes et dans les végétaux en général. Il y en a dans tes céréales aussi. Hein. Ces fibres, on ne les digère pas. C'est bizarre. Alors pourquoi on dit qu'il faut, hein, ce n'est pas nourrissant. Pourquoi il faut en prendre? Alors,
j'ai tout fait monde le lien, j'ai fait la condition. Ah oui, tout le monde dit quoi d'abord?
Et pourquoi il faut prendre des fibres? Les fibres, ça... Ça améliore le transit.
Petit intestinal, oui.
Mais ça, c'est marrant, c'est vrai.
Attention, parce qu'il y en a qui ont exagéré avec leur pub, comme je l'ai cité, Actimel, LKZ Immunitas, bon pour le transit intestinal. C'est un peu du marketing, le truc.
Moi, je ne prendrai pas position.
Ne prends pas position.
Mais c'est un peu comme si tu dis, ah ben moi, j'ai acheté une voiture parce que j'aime bien la couleur de sa carrosserie. C'est vrai que ça joue. Enfin, ça sert à autre chose, la voiture. Ben, les fibres, ça sert vraiment à autre chose. C'est vrai que ça améliore le transit digestif, mais c'est un détail. En fait, comme ces fibres, elles sont digérées par les microbes du microbiote.
Waouh!
C'est leur nourriture.
Ouais.
Donc là, en Europe, hein, on ne mange que 50% de la dose recommandée. Donc on ne les nourrit pas assez. Donc il faut manger des fruits et légumes, frais ou cuits d'ailleurs. Hein. Les fibres, elles ne disparaissent pas à la cuisson.
Bon à savoir.
Contrairement aux vitamines. Ouais. Donc, il faut bouffer des fibres pour nourrir ces microbes. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce que je fais? Je bouffe du poireau, de l'avocat, de la pomme.
Il y a un coach derrière la caméra qui acquiesce parce qu'il en graille beaucoup, c'est pour ça. Donc, excuse-moi.
Mais alors, bon, tu bouffes ce que tu veux. Hein. Bon, moi, je ne vais pas regarder dans ton assiette. Il faut bouffer très diversifié parce que chaque légume ou chaque fruit amène une fibre différente et nourrit des microbes différents. Et si tu fais ça, tu vas notamment nourrir des microbes qui fermentent en produisant du butyrate.
Ouais.
Oui. Les microbes de notre digestif fermentent et ça fait l'odeur de nos pets.
Oui, voilà.
Nos pets, c'est les déchets gazeux de nos microbes.
Plus l'odeur est forte, plus il y a des bactéries ou
C'est compliqué.
Voilà.
C'est plus compliqué. Enfin,
je pensais que j'allais avoir un argument avec ma chérie.
Je ne peux pas détecter, si tu veux, tes microbes à l'odeur de tes pets. Si
d'accord. C'est ta question. J'adore cette conversation.
Je n'aurais pas besoin d'aller les sentir.
Non, je ne me permettrai pas, t'inquiète pas.
Non, mais donc le truc, si tu veux, c'est que ces microbes qui fermentent et qui produisent du butyrate, le butyrate, non seulement c'est une source d'énergie pour les cellules intestinales, ah oui, parce que ce que tu pètes pas, ça passe dans le sang, et ces molécules-là représentent 5 à 10% de tes besoins énergétiques, parce que tes cellules les utilisent.
Ah oui.
Ce que tu pètes, c'est des trucs que tu aurais pu utiliser dans tes cellules. Mais en plus, le butyrate, c'est un régulateur du système immunitaire qui va faire, entre autres molécules émises par le microbiote, que le système immunitaire s'active pas n'importe comment. mais juste quand il y a vraiment une agression. Et ça, c'est important parce que quand il s'active n'importe comment, ça crée des états pro-inflammatoires.
Des allergies et tout
puis
ça.
Puis des états inflammatoires.
Ouais.
Et ces états inflammatoires, il y a des systèmes de radicaux libres qui jouent, c'est mutagène.
C'est-à-dire, donc, c'est mutagène.
Bah, ça fait des mutations et notamment, certaines d'entre elles peuvent faire des cancers.
Ok. Ah oui, oui.
Donc, tu vois, c'est le circuit état pro-inflammatoire, état inflammatoire, cancer. C'est pas obligé qu'on fasse le circuit. Mais plus tu régules le système immunitaire, moins tu as d'état inflammatoire pour rien, moins tu as de chances d'avoir de cancer. C'est énorme.
J'ai des allergies qui ont surgi du jour au lendemain. Certaines qui disparaissent, celle du chien, ça a disparu, je suis super heureux. Chat, pollen, graminées, dites-nous d'ailleurs quelles sont vos allergies en commentaire. Souvent, on me dit que je dois me faire désensibiliser. Parce que ça va très loin. Alors, pourquoi pas? Mais je me dis toujours, ok, mais désensibiliser, c'est-à-dire que je dois faire quelque chose qui va régler le symptôme, mais je ne sais pas si je règle la cause. Et est-ce que cette cause est réglable? Je veux dire, peut-être en mangeant plus de fibres,
en parallèle d'où, du facteur, soin symptomatique de la désensibilisation, tu peux avoir un soin prophylactique, anticipé, préalable, ouais, qui est d'avoir un bon microbiote. Alors, il y a aussi le microbiote de ta peau, hein, Vince. Mmh. Parce que une douche tous les jours savonnée, c'est débile, c'est trop. Mmh. Il faut que tu règles en fonction de la façon.
Qu'est-ce qu'on dit à ceux qui font deux fois par jour? Et deux fois par jour alors?
Ah ben trop. Hein.
Ah ben c'est quoi?
Mais nos ancêtres, ils ont évolué, ils ont été sélectionnés pour pas se laver.
Mais voilà,
alors,
voilà.
Se laver en fait, peu, ça évite des maladies. On est d'accord, on va se laver.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est un truc qui est très important. Moi, c'est pour des raisons de sobriété, honnêtement, que je prends moins ma douche.
Tu vois qu'en plus là, c'est aligné les deux.
Bon, complètement. Donc, je vais être très honnête, je la prends tous les deux jours, trois jours même parfois.
Mais moi aussi, parce que le truc c'est que moins tu te douches,
mais c'est notre éducation.
Moins tu sécrètes de sébum.
Voilà.
Les bactéries de ta peau, elles bouffent le sébum, elles le transforment en odeur. Mmh. Donc plus tu te laves, plus ton corps compense, le sébum il est parti au lavage, il en refait. Du coup, comme il y en a plein, les bactéries le ferment vite et tu pues plus vite quand tu te laves souvent.
Alors que quand tu te laves moins...
Bah au début, c'est le bordel, et
voilà,
puis au bout de quelques
ça
jours,
se stabilise.
Ou deux semaines, il faut que tu trouves ton rythme. Ça, chacun son rythme. Hein.
Oui, non, voilà, on n'est pas en train de dire aux gens de...
Mais moi, je vais pas vous donner votre rythme de douche. Et puis, il y a une autre chose. Est-ce qu'une douche, elle doit toujours être savonnée? Mm-hmm. Peut-être que des fois, alterner une douche frottée au gant. Et une douche savonnée, ça peut être bien. Encore une chose, ton savon, est-ce qu'il est bactéricide? Il y a des pubs à la télé qui disent « Ouais, ce produit, il est génial, il tue 99,9% des bactéries. » Stop! Ça, c'est la preuve qu'il ne faut pas l'acheter. Parce qu'il est plus cher parce qu'il y a ce produit et il va nettoyer ton environnement. Et donc, ça, c'est pas tout. L'excès de nettoyage d'environnement, c'est pas bon parce que c'est comme ça qu'on n'est pas riche nous-mêmes en bactéries. Mmh. Et puis, il va te nettoyer trop toi-même. Savon bactéricide, uniquement si le médecin l'a demandé. Mais il y a mieux. Ton savon, il est peut-être liquide. Alors, je te dis pas. Pour trimballer ton savon, il faut plus de CO2.
Oui, enfin,
ça produit plus de CO2 puisqu'il faut trimballer de l'eau avec. Mais comme il y a de l'eau, il s'oxyde plus vite. Parce que les réactions chimiques se font plus vite dans l'eau. Donc, il faut mettre un antioxydant. Comme il y a de l'eau et du savon, il y a des microbes qui peuvent manger de ça. Donc, il faut mettre un bactériostatique ou un bactéricide. On appelle ça un conservateur ou un stabilisateur. Eh ouais! Donc, on arrête les savons liquides. Parce que les savons liquides, ça coûte du CO2 à transporter et dedans, il y a des additifs pour que ce soit stable, qu'il n'y a pas dans un bon pain de savon à l'ancienne.
Et l'emballage plastique. Enfin, non, mais c'est dingue.
Le savon Marseille ou le savon d'Alep.
Ouais, mais attends, alors, je découvre tellement de choses. Vraiment, tu es une mine d'informations, j'adore, je bois tes paroles et je vais le transposer. Qu'est-ce qui se passe, Marc-André, dans un monde, et on va y aller cash, c'est le principe de la chaîne, où on a des contraintes non gérées politiquement, non gérées culturellement parlant, on ne voyait pas le truc arriver, et tout d'un coup le truc nous tombe dessus, voilà, explosion d'une nouvelle maladie qui arrive, oh, une maladie qui vient du pergélisol, tiens, on s'y attendait pas, oh tiens, des bactéries, ils font quelque chose, enfin voilà. Et que on se retrouve dans cette société ultra aseptisée, en tout cas dans nos régions, mais comment est-ce qu'on anticipe? Quel est le message on devrait passer? Parce que forcément, moins d'énergie disponible, parfois ce sera moins d'accès à l'eau, etc. Est-ce que c'est quoi? C'est aujourd'hui déjà s'adapter, ralentir pour en fait faire en sorte que notre système immunitaire fasse plus le travail? Parce que le problème, c'est que venir avec cette notion du système immunitaire qui fait plus le taf, ça a créé au fait toute une déviance de l'autre côté en disant « Ouais, moi je vais pas me faire vacciner contre la polio parce que la polio, tu vois le truc un peu. »
À ma connaissance, hein, moi j'ai bien regardé parce que j'ai un petit mouflet, donc avant qu'on le vaccine, j'ai regardé. Honnêtement, il y a toujours un risque vaccinal, mais il est toujours inférieur au gain de la perte du risque de maladie.
Bénéfice.
C'est ça. Risque. Le vaccin est un risque, mais c'est individuellement et collectivement, un risque moins grand que celui d'avoir la maladie. D'accord. La polio, alors là, les gens, ils vivent avec une cuillère en argent dans la bouche. Moi, j'ai enseigné au Brésil, j'ai longtemps été prof dans une université brésilienne, j'avais des gamins qui avaient eu la poliomyélite. Tout déformé.
Horrible.
Ça abîme. Bon, donc, pour les vaccins, moi je suis plus pro-vax, voilà. Mais revenons à ça. La vaccination n'a pas d'impact sur le fonctionnement du système immunitaire qui soit massif et délétère. Le truc, c'est qu'il faut user toutes les ressources. Donc, il faut avoir un système immunitaire qui fonctionne. Pour ça, il faut avoir un bon microbiote, parce qu'un des régulateurs, c'est le microbiote. Ensuite, on peut mettre quelques vaccins par-dessus. Ce n'est pas un problème. Sinon, il faut faire feu de tout bois. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on vit trop proprement, on mange trop proprement, et on a perdu la béquille microbiote.
Mais donc, c'est-à-dire que si t'as un retour de flamme de l'effet de l'anthropocène sur le vivant, et donc t'as un petit virus ou des bactéries ou etc. Là, on se retrouve. Est-ce qu'on a un risque?
Regarde, j'ai donné un autre exemple. Mm-hmm. Quand on a eu la Covid, au début, on s'est frotté les mains avec du gel hydroalcoolique.
Ouais.
En fait, il n'y a pas de preuve que le virus peut être manuporté par les mains ou par la peau. On sait que c'est les aérosols. Et aujourd'hui, les gens ont cessé de porter des masques qui sont efficaces. Alors, moi, je comprends qu'on ait cessé de porter les masques, c'est pas ça mon problème. Mais il y en a qui continuent à se frotter les mains avec du gel hydroalcoolique. Ça, c'est très mauvais pour le microbiote. Mmh. Par contre, quand on est dans la période grippe gastro, alors là, la période hivernale grippe gastro, là, c'est manuporté. Donc là, on prend le gel.
Voilà.
Mais en temps normal, le gel hydroalcoolique, c'est n'importe quoi.
Et justement...
c'est n'importe quoi pour le microbiote.
mais justement, tu vois, dans tout cette relation de cause à effet... Quand tu regardes aujourd'hui, société aseptisée, etc. Il y a un truc qui me fait peur, c'est une ombre de...
Oui.
On parlait des antibiotiques. j'ai peur, en fait, que tout d'un coup... moi, par exemple, j'ai dû passer à d'autres stades antibiotiques à cause de caries à répétition, infections, machin. Non. Et je suis à un stade super élevé. Je me dis, mais après, il va en rester quoi? Je ne sais pas quel nom ça porte, mais que... Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas tellement arrivé dans un monde, alors je vais essayer de le vulgariser facilement, enfin que ce soit, qu'on comprenne surtout l'idée, la notion que j'imagine derrière, dans un monde où on est dans le rouge dans tout, qu'on est aussi dans le rouge en termes d'utilisation d'antibiotiques, qui fait que ça va causer plus de morts aujourd'hui, enfin qu'on n'est pas plus à l'échelle mondiale, mais qu'on risque, ce nombre de morts dû en fait à une adaptation aux antibiotiques pourrait augmenter au fur et à mesure, jusqu'à arriver en fait à des points...
Déjà, on perd les antibiotiques parce qu'à force de les utiliser, ça sélectionne des bactéries résistantes et on est envahi de bactéries résistantes. Il y a les fameux MDR, alors ça ne veut pas dire mort de rire, mais c'est multi-drug resistant.
Ouais.
Ces bactéries qui vivent en milieu hospitalier et qui sont résistantes à plein de drogues. Et celles-là, elles tuent plusieurs milliers de patients par an. Parce qu'en fait, on n'a plus d'antibiotiques.
Elles vivent en milieu hospitalier.
On a des antibiotiques rares qu'on utilise dans ces cas-là. La ressource, c'est encore les microbes. Aujourd'hui, il y a une voie qu'on utilise surtout dans les situations d'urgence pour l'instant, qui est la phagothérapie. Je ne sais pas si tu as entendu parler.
Non.
Les phages, c'est les virus qui attaquent les bactéries. Et ils sont assez spécifiques, à l'inverse des antibiotiques. Alors, l'histoire, ça a été développé par un Français, Félix Derel, avant les antibiotiques. C'est un peu plus compliqué que les antibiotiques, parce qu'un antibiotique, comme il tape large, t'es malade, pof, je te colle un antibiotique.
De base, antibiotiques, ça vient de quoi? Des champignons, c'est
ouais,
ça
ouais, c'est des bactéries elles-mêmes.
Voilà.
C'est des molécules avec lesquelles ils s'entretuent, les microbes.
Voilà.
Et nous, on a récupéré les produits des guerres microbiennes pour faire notre business.
D'accord.
Mais c'est pas une mauvaise idée, hein, ça a sauvé des vies, c'est évident.
Bien sûr.
Les virus, eux, ils sont spécifiques. Donc, si jamais t'es malade, on isole ta bactérie. Alors, c'est un peu plus long. Hein. On prend ta bactérie, on l'isole, on voit laquelle c'est, on teste des virus dessus, on s'aperçoit que tel virus la tue, on donne les virus, t'es guéri. Et ça n'a tué que cette bactérie. Alors aujourd'hui, c'est utilisé un peu en traitement de sauvetage quand il y a des problèmes d'infection chronique qu'on n'arrive pas à gérer par des antibiotiques. Mais demain, cette phagothérapie, qui d'ailleurs date d'hier, puisque, une fois de plus, elle a été développée avant l'ère des antibiotiques, et d'ailleurs dans les pays de l'Est, il y a encore un gros institut à Tbilissi en Géorgie qui travaille là-dessus, avec des collections somptueuses de tas de virus, justement, à essayer sur toutes les bactéries qu'on leur soumet et qu'on veut tuer. Dans le bloc de l'Est soviétique, ils avaient continué à faire de la recherche là-dessus. Nous, quand on a eu les antibiotiques, on a arrêté ça.
Parce que ça a été rapide et efficace.
Donc, là encore, finalement, la parade à ce problème de résistance et d'antibiotiques qui sont à bout de souffle, c'est les microbes encore, les virus.
On y revient.
Et donc, si tu veux, ce qu'il faut, c'est arriver à comprendre que dans les microbes, il y en a qui sont utiles aussi. Et valoriser ça au maximum. Donc déjà, tu vois, dans ta santé à toi, mais aussi dans l'environnement. Bah, et alors ça, par parenthèse, Abiogé, on va en parler.
Voilà.
Hein, on va avoir des confs, moi j'en ferai une ou deux. Il y a des gens qui viennent nous parler de la recherche sur la peau, la recherche sur les poumons. Oui, parce que les poumons, la santé des poumons, c'est les bactéries qu'il y a dedans. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a et elles sont très importantes. On va avoir des gens qui vont nous parler de ça. Ils vont nous parler aussi des aliments fermentés. Mmh. Parce que la fermentation des aliments, c'est aussi des microbes au service de l'homme. Et puis de tous les microbes dans l'environnement. Parce que eh ben, dans les sols, dans les eaux, il y a des microbes. Et certains sont des outils pour nous. Tu vois, c'est ce côté science-solution. Et les microbes incarnent bien ça. Aujourd'hui, la science, elle sert qu'à expliquer les problèmes. Il y a une maladie qui apparaît, on convoque un scientifique. Il y a un feu au Canada, on convoque un scientifique. Tu vois, ça, c'est la science Cassandre, elle explique les catastrophes. Si on la prend en charge avant, elle offre plein de solutions, et notamment des solutions microbiennes pour des tas de choses.
Eh ben regarde, on a pris les petits ensemble, nous, en tant qu'espèces vivantes, hein, c'est toutes ces petites espèces vivantes en nous qui nous permettent de réguler notre humeur, notre santé physique, en fait notre vie. Et c'est ça qui est très beau d'avoir ramené ça. Et puis, on dit toujours qu'un corps humain, c'est un écosystème à lui tout seul. Là, on en a la preuve. Mais qu'on peut reprendre un peu le même modèle avec la planète Terre. La planète Terre est un corps dans lequel il y a toute cette Terre où les bactéries et les bactéries ont fait tout les choux gras en fait de toutes les espèces vivantes et qu'elles sont vraiment à la base même en fait de cette transformation de l'alimentation et qu'au final on se retrouve donc avec et je crois que c'est toi qui disais que quand on regarde un paysage on dit « Oh, wow, c'est beau, c'est la nature, c'est le vivant. » Ah, oui. Mais en fait, non, ce n'est pas le paysage. C'est ce qu'il y a dedans.
Bah, c'est-à-dire qu'à l'échelle où nous, on est, on fait partie des très grosses espèces, des plus grosses espèces. Il y a plus gros que l'homme. Hein.
Oui, la baleine, la bosse, oui, oui. Bien sûr. D'accord, il y a les éléphants, oui, ok.
Mais il y a surtout beaucoup de plus petits. La taille du vivant moyen sur Terre, c'est un unicellulaire qui fait entre 1 et 10 millièmes de millimètre.
C'est la taille
moyenne. C'est ça,
moyenne.
La taille standard.
Génial.
Tu vois ?
Un autre monde, quoi. Ouais.
Hein, de même qu'en moyenne, les humains ont deux yeux.
Oui.
Eh ben, le vivant en moyenne, c'est invisible. Et nous, on est dans ces espèces qui, comme les plantes, certains champignons et les autres animaux, hein, on est dans ces espèces qui sont devenues très très grosses en accumulant des cellules, en faisant des tas de cellules. On les a tout à l'heure, hein, moi, c'est 10 milliards de cellules entassées. Et donc, ce qu'on voit, c'est quelques groupes seulement. Tu sais, je viens de dire, là, les plantes, les champignons, allez, je te rajoute les algues, les animaux, ça fait 4 grands groupes. Mmh. Et des groupes comme ça dans le monde vivant, il y en a des centaines. Sauf qu'ils sont tous unicellulaires et que tu ne les connais pas. Voilà.
Et ils font tous ce travail. Enfin,
Ils vivent différemment. Tiens, tu en as par exemple, qui, quand il n'y a pas d'oxygène, c'est des bactéries qui font ça. Elles respirent, mais quand il n'y a pas d'oxygène.
Elles respirent quoi ?
Elles respirent au CO2.
Ah oui, donc elles switch en mode.
Oui, alors c'est moins efficace, mais tu quand t'as pas
quand tu n'as pas le choix.
Ça, et. Elles font un déchet qui s'appelle le méthane.
D'accord.
Alors ça, c'est l'origine du méthane sur Terre. C'est ces bactéries dans les sols humides, notamment quand on fait fondre les pergélisols, ça donne une espèce de boue dans laquelle il y a plein de méthane qui sort, c'est une vraie catastrophe.
Oui, c'est ça, quand ils font, en fait, toute cette vie va beaucoup plus vite et donc transforme.
Tant que c'est en glace, il ne se passe rien.
Et donc le méthane dont on parle de sortir, en fait, ce n'est pas du méthane coincé dans de la glace, dans un sol.
Il y en a un peu qui a été piégé, mais il y a surtout celui qui va être produit activement
par les bactéries.
Par les trucs qui reprennent vie dans un milieu où il y a plein d'eau, puisque c'était de la glace avant, c'était du sol glacé. Et donc elles font du méthane. Mais, alors là, tu vas me dire, quelle catastrophe, il faudrait qu'on les élimine, celle-là. Non, mais attends. Dans les méthaniseurs, qu'est-ce qui se passe ? Tu mets ta matière organique à l'abri de l'air, t'as des bactéries
pour
qui font du méthane qui se développent.
Ouais.
Quand on a des méthaniseurs, quand on fait du méthane à partir de la biomasse, comme on fait beaucoup maintenant, en fait, c'est les bactéries qui le font. Tu vois ? Donc en fait, ces bactéries qui font du méthane, c'est celles qu'on utilise quand on produit du biogaz.
Comment ça se passe quand on tue les sols pour les insectes, etc., et forcément aussi les bactéries avec tellement enfin, notre... Ouais. Agriculture traditionnelle,
alors,
c'est un gros sujet ça.
Tu sais qu'en France, 98% des sols, même forestiers, sont pollués par les pesticides.
Même forestiers.
Et donc, ces pesticides ne tuent pas toutes les espèces vivantes des sols. Il y en a des milliers dans les sols. Un gramme de sol, hein, c'est plusieurs milliers d'espèces de bactéries, un bon millier d'espèces de champignons, des centaines d'espèces d'amibes, petites algues unicellulaires, un gramme de sol.
Un gramme de sol,
oui.
Des milliers d'espèces de champignons. Ah waouh,
Un millier d'espèces de champignons, en gros, et plusieurs milliers d'espèces de bactéries. Mais oui, et pour eux, un gramme de sol, c'est, t'imagines, Paris et la banlieue parisienne avec des immeubles de 600 étages.
Ok.
Tu peux en mettre des Marc-André.
Ah ouais.
Pour eux, c'est moi, dans Paris, le bassin parisien, avec des immeubles à 500 étages. C'est ça, c'est le problème d'échelle. Donc, il y a de la place pour en mettre plein. Et ils font plein de choses dans ces sols. Sauf que, bah, quand on met des pesticides, il y en a qui ne supportent pas. Mmh. Typiquement, il y a des champignons qui ne supportent pas le glyphosate, par exemple. Mmh. Alors même que ce n'est pas fait pour les tuer. Hein. C'est un herbicide.
Mais c'est dommage. Effet secondaire, boum.
Bah oui, ça les nique. Quand tu mets des engrais minéraux, tu changes complètement la donne. Mmh. Donc, il y a des espèces qui ne survivent pas. Quand tu laboures, tu déchires les filaments de champignons. Quand tu...
Ah, le fameux mycélium, ça.
Bah, les réseaux de filaments microscopiques dont je parlais au tout début, hein, qui forment la vie quotidienne du champignon. Donc, en fait, nos pratiques agricoles, elles vont réduire la diversité. Alors, attention, il y a peu d'espèces qui disparaissent. Simplement, elles deviennent rares.
Ça diminue en nombre.
Alors, c'est pas bien, parce que quand tu as moins d'individus, tu perds la diversité génétique.
Ouais.
Mais dans nos sols, il n'y a pas vraiment d'extinction. Et donc, le verre est à moitié vide, la vie s'écroule dans nos sols, ils ne sont pas morts. Ça, c'est faux. Mais nos sols agricoles, la vie s'écroule dedans. Mais le verre est à moitié plein, c'est que toutes les espèces sont encore là. Et d'ailleurs, quand maintenant, on adopte des agricultures de type régénératif, qui vont favoriser tous ces microbes, en ne labourant plus, en amenant de la matière organique, parce que c'est ça que mangent certains de ces microbes, et en mettant tout le temps des plantes dessus, parce que d'autres qui sont associés aux plantes, ben, ils ont besoin qu'il y ait des racines. Mmh. Quand tu fais ces trois choses-là, dans les agricultures régénératives, ton sol redevient vivant et il se décompacte lui-même, et il est plein de matière organique qui retient l'eau, en 2 à 5 ans. Donc okay. Ça, c'est un des endroits où mais la biodiversité, on ne l'a pas abîmée au point que ce soit irrémédiable. Il faut le dire, hein. Bah, comme dans notre organisme.
Mais c'est très important de le dire.
Si tu changes ton mode de vie, tu peux refaire ton microbiote. Les microbiotes des sols, c'est des belles au bois dormant. Ils attendent des baisers. Alors, la belle au bois dormant, c'est simple. Hein. Si jamais tu vas réveiller Vince, la belle au bois dormant, je te rappelle, tu ne fous pas des coups de charrue.
Ouais, de préférence.
D'accord. Deuxièmement, elle a dormi pendant longtemps, tu l'amènes à manger. Voilà. C'est la matière organique. Ouais. Et puis, pour être sympatoche, tu lui amènes des fleurs. C'est planter des plantes toujours sur le sol. C'est, voilà. Le sol est une belle au bois dormant, pas de coup de lame de métal, des fleurs, de la bouffe.
J'étais dans un projet en agroécologie, j'avais visité une ferme qui effectivement a montré un truc juste qui permet de faire rentrer de l'air et c'est tout.
Il faut partir. Ça, t'as le droit. Ouais. Tu vois, faire un trou, c'est comme si c'était un passage de vers de terre ou une racine qui grossissait. Voilà, ouais. Faire un trou, écarter un peu, la vie du sol est adaptée à ça.
Ouais.
Le labour, c'est autre chose. Il y a des mouvements cisaillants, il y a des séparations de blocs.
Et donc faire ça demande...
Ça, la vie du sol, il n'est pas habitué.
Donc ça demande de la mettre sous perfusion avec toutes nos industries chimiques.
Quand tu n'as plus les microbes qui protègent les racines des plantes, tu as plus de maladies, il te faut plus de pesticides. Quand tu n'as plus... Moi, je travaille sur des champignons qui sont associés aux racines des plantes et qui, en échange d'un peu de sucre, vont faire les courses. Ils vont chercher l'azote, le phosphate, l'eau. Ces champignons, c'est par exemple la truffe pour le chêne.
Ouais.
Les cèpes et les girolles pour les arbres forestiers. Ces champignons-là, si tu veux, quand tu mets des engrais minéraux, bah, la plante, elle ne les paye plus à aller faire les courses. Elle a tout ce qu'il lui faut. Donc, elle se découple de ça. Mais oui, mais ils ont aussi un rôle protecteur pour la racine. Oui, exactement comme les microbes de ton microbiote. Hein. Bah, tu perds le rôle protecteur, donc ta plante est plus souvent malade. Mmh. Donc, les engrais l'aident à pousser, mais elle congédie les champignons, et donc elle devient dépendante des engrais et de plus de pesticides.
Waouh. Et donc, tu te retrouves dans une réaction en chaîne.
Quand tu laboures, tu fous en l'air les filaments. Et donc, tous les ans, tes champignons doivent regermer à partir de spores qui ont survécu dans le sol. Ah oui, mais attention, tu réduis pratiquement d'un facteur 10 le nombre de spores viables si tu as utilisé du glyphosate.
Hein.
Donc tu vois, c'est le bordel. Et tu finis par avoir complètement artificialisé ton système, tu es complètement dépendant maintenant des engrais et des pesticides. Alors, entendons-nous, cette agriculture, elle a une vertu, hein, c'est qu'elle nous a résolu le problème initial qui était le problème de la quantité. Faut quand même pas cracher dans la soupe,
bien
justement,
sûr.
Parce qu'on a de la soupe.
Parle de la révolution verte.
Bah oui, et puis même, enfin, par rapport au 19e où il y avait une famine tous les 5 à 10 ans, c'est fini ces conneries.
Mm-hmm.
Donc ça, il faut quand même dire, c'était le cahier des charges était quantitatif.
Ah, avec un prix.
Mais bien. Maintenant, on sent bien que ça peut pas durer et on voudrait introduire un cahier des charges qualitatif.
C'est shiftable. En combien de temps on peut tout changer?
Mais il faut changer les consommateurs. C'est ça le facteur limitant. Des gens qui font de l'agriculture non labourée, il y en a. Des gens qui font de l'agriculture bio, alors elles labourent, c'est pas terrible, mais il n'y a plus de pesticides.
Déjà,
c'est bien, enfin, c'est deux voies intéressantes. Oui, mais il n'y a pas de marché pour ça. L'agriculture dite de conservation, on ne laboure pas, les gens ne connaissent même pas le label au cœur du vivant. Les gens
ne
connaissent pas le label. Le bio, les gens connaissent le label, mais là maintenant qu'il y a des problèmes d'augmentation des prix, ben, ils font des économies là-dessus. Dans mon pays, en France, ça baisse de 10% par an. La contraction en année courante du marché du bio, c'est catastrophique. Donc, si tu veux, moi, je pense que le facteur limitant, faut pas taper sur les agriculteurs. Hein.
Non,
ils
bien
font
sûr.
Ce qui se vend.
Oui, et puis surtout pieds et mains liés par une forme d'industrie aussi. Hein.
Ouais. Alors, ils sont coupables de ne pas aider au changement, d'une certaine façon, mais n'oublions pas que nous, en tant que consommateurs,
ouais.
Tu sais, je dis souvent qu'on a deux atouts dans la main. Ben, je ne les ai pas ici. C'est la carte d'électeur.
Ouais.
Dans notre jeu, on a deux atouts, la carte d'électeur et la carte bancaire. Avec ça, finalement, chaque achat est un vote pour une forme de production. Donc moi, ce qui me paraît, et c'est là que je veux vraiment, et c'est ce qu'on va faire à Rouen avec BioG, hein, c'est remettre les pendules à l'heure, hein, remettre les gens en face des données pour qu'ils réalisent les choses, leur donner l'information, parce que c'est les gens qui peuvent changer le monde, tu vois, par leurs habitudes de consommation. Et en l'occurrence, en plus, on a souvent un bon alignement entre ce qui est bon pour l'environnement et ce qui est bon pour la santé. Enfin, en tout cas, dans le domaine agricole, c'est assez clair.
Mais donc, shifter par le fait que les consommateurs décident eux-mêmes de se dire « Bon, bah, tu sais quoi, je quitte cette forme d'alimentation agro-industrielle. »
Quitte à dire aussi « Je subventionne. »
Oui, voilà, c'est
je
ça.
Je te rappelle que la PAC, dans ton pays comme dans le mien,
hein,
c'est 117 euros par habitant d'Europe, nourrissons compris, par an.
D'accord.
Bon, bah, avec ça, on pourrait décider qu'on ne donne pas n'importe comment, on le donne à une certaine forme d'agriculture que nous souhaitons collectivement et démocratiquement. Mais tu vois, la prise de conscience, elle n'est pas là.
Non, parce que déjà, il faut la comprendre pour nous, pour notre santé,
simple,
pour notre alimentation. Il faut la comprendre pour des raisons de limites planétaires, hein, d'utilisation d'engrais, des raisons climatiques aussi, des raisons sociales aussi. Tout ça, c'est pas évident.
Le truc là, tu parles du social, c'est les pauvres qui trinquent encore. Parce que qui est-ce qui arrête de manger bio?
Ben, les personnes qui n'ont pas les fonds, qui n'ont pas les moyens.
Donc tu vois, en fait, il y a souvent quelque chose aussi de bien aligné entre le social et l'environnemental. Parce que quand l'environnement se dégrade, les riches, ils vont là où il fait frais en été. En ce moment.
Ben, c'est ça.
Les pauvres,
ils restent
chez eux.
C'est un peu le même principe. J'ai les moyens, donc je peux mettre autant de panneaux solaires que je veux. Je peux mettre une pompe à chaleur très facilement. Je peux rénover ma maison. Je peux me permettre de manger bio, meilleur pour ma santé. Bon, on a déjà démontré dans certains pays que plus l'indice socio-économique est faible, plus malheureusement l'alimentation elle est mauvaise et plus elle est élevée.
On parlait de l'obésité tout à l'heure. Hein. L'obésité, elle est proportionnelle au revenu.
Voilà.
Et c'est effectivement dans les CSP les qui ont le moins de pouvoir d'achat, on trouve le maximum d'obésité.
Mais donc quand tu es dans un monde malheureusement qui se contracte d'un point de vue des énergies, bon forcément les choses vont se contracter de plusieurs façons, soit tu contrôles, soit tu ne contrôles pas la situation, mais ça veut dire que quoi qu'il arrive, plus ton revenu est faible, alors là je parle d'expérience, hein, je veux dire, je suis un peu l'entre-deux mondes, hein, je côtoie des personnes que je peux qualifier de bourgeoises, comme je côtoie des personnes qui sont vraiment dans des galères, hein, par mes origines, forcément on est un petit peu dans tous les milieux. Et oui, malheureusement, dans les milieux plus de ma communauté, entre guillemets, enfin, le terme communauté est bizarre parce que je suis dans la communauté humaine, c'est comme ça que je m'estime, mais bref.
Ouais, non, mais dans ton milieu socioculturel.
Exactement, on va faire les courses au moins cher, où t'achètes des grosses quantités et tu regardes, tu vois que ça fait le tour du monde et.
Ça veut dire que certains.
Et c'est même pas bon, quoi.
Sont pas chers, mais en fait, ils sont secrètement chers parce que ça va augmenter tes cotisations sociales pour soigner des maladies.
C'est ça.
Ça va augmenter
les
impôts
cachés.
Locaux pour la qualité de l'eau.
Mmh.
Parce que sous une agriculture qui pollue, l'eau, il faut la nettoyer. Donc il y a des coûts cachés. On appelle ça les externalités négatives, mais c'est un terme pourri, parce que comme ça se répercute sur ta santé, c'est très intime en fait. C'est pas des externalités, c'est souvent des internalités.
Mais on le sent pas, tu manges ton truc, là, ton pot de Nutella,
façon
de parler.
Le truc est pas cher à la caisse, tout compris à la fin, plus tard.
Ouais.
Maladie, purification de l'eau, il est plus cher. Et c'est pour ça qu'il y a une petite fille qui est dans une émission qu'on a en France, là, Les Petits Bateaux.
Ouais.
C'est des enfants qui posent des questions à des spécialistes. Et une petite fille qui demandait pourquoi, si le bio est bon pour la santé, il est plus cher. Il n'est pas plus cher. Sauf que le conventionnel, le produit des agricultures conventionnelles, tu finis de le payer avec tes impôts et tes cotisations sociales. Mais à la caisse, tu payes moins cher. Et ça, c'est là qu'il faudrait une volonté collective pour qu'on subventionne le bio pour qu'il ne soit pas plus cher et qu'éventuellement on taxe le non-bio.
Mais
dans un deuxième temps, tu vois, laisser le temps de développer la production, puis ensuite.
Est-ce qu'il est possible
Laisser le temps aux agriculteurs de s'adapter.
Voilà,
c'est pas de dire les agriculteurs font des conneries. Il faut les aider à faire différemment si on veut qu'ils fassent.
Oui, voilà, il faut qu'ils aient de l'aide, il faut qu'il y ait de l'investissement derrière, et ça prend du temps. Il y a le changement culturel, il faut apprendre.
Et je te rappelle donc que 117 euros par an hein, que tu payes.
Oui, voilà. Mais alors, je me pose la question de cette transition, c'est-à-dire que. J'adore partir dans des exercices de pensée comme ça.
Vas-y.
Notre industrie, elle est basée sur du fossile. Tu me suis. Que ce soit les engrais, que ce soit le transport, la transformation, jusque dans tes rayons, etc. Entièrement fossile. Il y a le bio qui se repose aussi sur du fossile, en quelque sorte. Mais tu travailles, tu fais les choses très différemment, sur plusieurs points. Est-ce qu'il est possible, en sachant qu'on arrive à des limites physiques dans le fossile, et qu'en plus de ça, on a un changement climatique, donc on le laisse dans le sol, donc on l'utilise moins, en fait, d'aller dans quelque chose qui est plus de l'agroforesterie, de l'agroécologie, mais qui, alors là, a réduit la part de fossiles de manière immense, met en valeur toute cette notion du microbiote intestinal du sol, si tu vois ce que je veux dire, de tout ce fonctionnement d'agroécologie, et qu'en plus de ça, on fasse bio et qu'on le mette à grande échelle, qui permettrait en fait de réduire les coûts sur les soins de santé demain. Quoi. Est-ce que pour toi, ce shift, il est réalisable et quels sont les freins qui nous y empêchent pour l'instant?
Alors, il faudrait donner aussi à des énergéticiens. Il y a des agronomes, mais il y a des modèles qui tournent d'agronomes qui montrent que des choses sont possibles. Le truc, c'est qu'il y a des variables d'ajustement dans cette histoire-là. Par exemple, sur la bouffe, 33% de notre nourriture finit à la poubelle. Parce que, date limite de péremption, puis dans les pays tropicaux, c'est plutôt parce que les infrastructures de transport ne permettent pas
d'acheminer à temps. Chaîne du froid et tout, c'est compliqué et tout. Ouais, ouais.
Bon, on mange trop de viande. On mange 4 à 5 fois trop de viande.
Culturel, là.
On dit 20-25 kilos par personne et par an. Nous, on est à entre 80 et 100.
Ouais.
Et ça, c'est toxique. Hein. Ça fait plus d'AVC, ça fait plus de cancer du tube digestif. On est dans la zone de toxicité de la viande. Bon. Si on consomme moins de viande, on va libérer des surfaces qui servent actuellement à nourrir des animaux. 71% des surfaces agricoles de l'Europe servent à nourrir des animaux. C'est énorme. Si tu manges 3 fois moins de viande, tu vas libérer les 2/3 de cette surface. Et là, tu vas pouvoir faire du végétal. Et ce végétal, tu pourras le faire en étant moins productif. Tu pourras même aussi avoir des surfaces où tu feras du végétal qui pousse comme un dingue, que tu mettras ensuite dans des méthaniseurs pour faire du méthane, ou que tu brûleras dans des chaudières pour faire de l'énergie. Donc l'idée, c'est de maximiser ça. Je ne dis pas qu'on y arrivera complètement, tu vois, je ne dis pas qu'on se passera complètement des engrais minéraux.
Oui.
Mais ce qu'il faut, c'est utiliser très parcimonieusement dans un cocktail d'autres solutions.
Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas plus de viande, ça veut dire que ce sera bien entendu réduit, parce qu'on a toujours besoin des engrais de la viande bovine, en quelque sorte.
Enfin, bien sûr, mais nous, on a besoin de certaines vitamines D, E, K qu'on trouve dans la viande. On a besoin aussi d'oméga-3, et la viande est une source d'oméga-3. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être végétalien, mais quand on est végétalien...
Mais on est en sur-régime, quoi qu'il arrive, on est en sur-régime.
Mais nous, on en prend trop. Ouais.
Voilà, on en mange trop.
On en prend trop, et donc il faut retrouver un équilibre qui permet de penser que... Oui, enfin, il y a des modèles qui tournent et qui montrent que c'est envisageable. Et surtout, si tu veux, l'idée, c'est de s'appuyer au maximum sur la nature. Je te donne un autre exemple. Quand tu mets des fongicides sur une plante, que ce soit préventif ou curatif, tu vas tuer les maladies. Mais tu tues aussi les microbes qui habitent la plante. Ah ben oui, parce qu'elle est comme toi, à sa surface. Elle a des bactéries, des levures, des choses comme ça, qui s'installent là, qui vivent là et qui protègent leur territoire, donc qui empêchent les maladies d'arriver. Donc quand tu bousilles tout, tu bousilles ta maladie, mais la minute d'après, ta plante, elle n'a plus ses alliés naturels de défense. Donc elle attrape plus facilement des maladies. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est basculer vers des systèmes où on maximise les mécanismes, alors j'allais dire naturels entre guillemets, microbiens, du fonctionnement de la plante. D'accord ? Ça ne veut pas dire zéro intrant, ça ne veut pas dire zéro pesticide, mais ça veut dire qu'on les minimise de façon à jouer sur les défenses entre guillemets naturelles, qui sont en fait des défenses microbiennes en partie.
On réduit, on réduit, on réduit, on transitionne le mieux possible en accompagnant les agriculteurs, mais à partir...
On fait des haies pour empêcher la propagation des maladies, parce que c'est une de leurs fonctions, les haies. On a oublié parce qu'on a supprimé les haies quand on avait les pesticides. Mais une des fonctions des haies, c'est d'empêcher les maladies de se transmettre.
Ça, c'est ouf, ça.
Ben oui, c'est du cloisonnement.
Cette notion est incroyable.
C'est exactement comme quand on voulait éviter que la Covid se propage, on a arrêté un peu trop tard les échanges internationaux. On essayait de cloisonner. Bah, les haies, c'est fait pour cloisonner.
Wow.
Donc, tu vois, et puis alors, tu peux très bien aussi avoir dans les champs des mélanges de variétés qui ont des résistances différentes aux microbes, ce qui fait que les microbes qui réussissent sur l'une des plantes, quand ils passent à la suivante, elle est résistante à d'autres, à des pathogènes différents et éventuellement, il ne peut pas s'installer. Donc, les maladies ont du mal à se propager dans un environnement hétérogène. Mélange variétaux, des haies, retarder le plus possible les traitements et tu arrives finalement à reconstituer des logiques qui vont te conduire à n'utiliser les pesticides que vraiment si le système craque, genre une année humide, où t'es pourri de mildiou. On a connu ça dans le vignoble cette année. On a eu des catastrophes avec le mildiou et l'oïdium, parce que ça a été une année humide sur la façade atlantique.
Ouais, donc le changement climatique, malheureusement, aussi a un effet sur absolument tout le reste, en quelque sorte.
Ah bah, il ne va pas nous aider, dans les régions humides, à lutter contre les maladies. Et dans les régions sèches, il ne va pas nous aider à produire. Ça, c'est sûr.
Waouh. Allez le choper, hein, de préférence. Je tiens quand même à le dire, hein, parce que c'est vrai que j'avais eu l'occasion de le zioter la dernière fois. Vous entrez dans la vallée du mort. Ok. ça fait un peu flipper.
Il y a des dessins humoristiques. J'ai un illustrateur qui aime bien déconner sur le texte. Et c'est Arnaud Affaillant, il fait un travail génial.
Et BioG, n'oubliez pas, le 14 et 15 octobre. Si vous voyez ça plus tard, bon, bah, c'est pas très grave.
Hein, en ligne aussi. Hein, ce sera sur le site de BioG. Vous pourrez suivre nos ébats et débats.
C'est très joli. Je te remercie beaucoup, Marc-André. On se revoit de toute façon une prochaine fois. On a tellement d'autres sujets à aborder. Quand tu seras à Bruxelles, alors je me pointe ici au Musée des sciences naturelles de Paris. On met les caméras et on discute et on échange. T'étais très bien sapé aujourd'hui, un petit...
C'est la tenue de fin d'automne.
Ah voilà, businessman.
J'aurai d'autres cravates encore à Rouen, c'est promis.
Ouais, c'est vrai. Juste avant qu'on se quitte, petit conseil aux gens qui nous regardent. Ce qui te passe par le cœur, par la tête.
Achetez jamais seul l'autre bouquin sur les microbes. Et surtout, mangez des fibres. Franchement, c'est ce que vous pouvez faire de mieux pour votre santé. Parce qu'en plus, ces végétaux, il y a des vitamines dedans. Donc mangez des fibres et cessez de vous bourrer de viande. Profitez-en plus quand vous en mangez, tiens. Par exemple.
Ça, c'est une technique. Je n'ai pas arrêté la viande. Je l'ai drastiquement réduite. Voilà. Mais je te jure que quand je pète ce burger, là... Ça me fait un de ces... Oh, je suis là. Oh, mon Dieu, oh, c'est tellement bon. Un peu quand ils reviennent de Koh-Lanta, tu vois. Quand ils partent, ils goûtent. Oh, c'est tellement bon. Et ben c'est ça, reprofiter de ces choses qui sont devenues banales.
Oui, c'est ça. Retrouver le goût des choses avec une forme de parcimonie, sans excès, mais avec jouissance. Oui.
Waouh. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez cette vidéo et à très bientôt sur Limite. Merci Marc-André. Bye bye.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous rappelle qu'il est également disponible sur YouTube en vidéo. Et nous sommes aussi présents sur les autres réseaux sociaux. Retrouvez nos articles et notre actualité sur le site limite.media. Et si Limite existe, c'est intégralement grâce à vous. Vous pouvez nous aider en envoyant un don sur Tipeee ou encore PayPal.me. Mais le plus important, si vous aimez notre travail, c'est de le partager tout autour de vous. Merci et à bientôt sur Limite.
Limite. Quelle est ta définition du réel ?